RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec celui qui est le meilleur coach de France mais qui redevient athlète de haut niveau jusqu'en décembre et au marathon de Valence. C'est Johan Durand, le maître Yodu. Salut Johan.
Salut à tous, salut Benoît. Bah écoute, ouais, j'ai une double casquette de nouveau.
Ça y est, les deux casquettes sont enfilées quoi.
Ouais, et là je m'entraîne là, ça rigole plus.
Voilà, c'est ça, exactement.
Là c'est parti.
Suivez cette aventure magnifique, la dernière danse, hein, disponible sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne RMC Running, sur les applis d'RMC, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Il y a plein de contenus additionnels qui arrivent sur Instagram, sur la chaîne YouTube RMC Running. Vraiment, c'est un projet qui se consomme.
Ça va être magnifique.
En 360, donc n'hésitez pas, parce que là vous aurez toutes les images, le test physio d'Yodu, ce qu'il y a dans son assiette tous les jours.
C'est presque ça, ouais.
Sa fréquence cardiaque au réveil, la couleur de ses urines, passionnant.
Tout ça.
Ouais, oui. Mais on pense à vous en cette période de rentrée scolaire et en ce début de saison, entre guillemets, parce que l'épisode du jour est consacré à une thématique simple. Comment réussir sa rentrée running? On va rappeler tous les bons conseils à mettre en place. Pour reprendre les bonnes habitudes, ça y est, les enfants sont rentrés à l'école. Comment on relance bien sa pratique de la course à pied? Et pour vous motiver, j'aurai un bon plan d'ossard en fin d'épisode. Les 10 km du Lagardère Paris Racing, c'est une toute nouvelle course dans le bois de Boulogne à Paris. C'est prévu le 20 septembre.
C'est chez toi.
C'est sur mon terrain, tout à fait. Et on recevra Benjamin Boulanger, qui est le directeur général délégué du Lagardère Paris Racing. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running. Johan, on est ravi de recevoir les auditeurs chez nous, comme ça, dans notre cabinet, parce que c'est aussi le cabinet du maître Yodu, donc on est content de retrouver tout le monde. Et c'était l'idée aujourd'hui, hein, Yodu, de parler à tous ceux qui nous écoutent et de leur rappeler les bons conseils pour réussir sa rentrée running. On va dissocier les différents cas, parce que certains sont déjà engagés dans des prépas, ce qui va les emmener sur des courses d'automne, voire sur le marathon de Berlin pour certains, ou sur des trails qui vont arriver assez vite. Il y en a qui ont coupé totalement et qui repartent de zéro. Il y en a qui profitent de la rentrée pour s'y mettre à fond. Donc, on va rappeler effectivement tous ces bons conseils. Déjà, préciser peut-être, Johan, que c'est toujours une période un peu dangereuse, j'allais dire, parce qu'il faut éviter les erreurs pour ne pas plomber les premiers mois de pratique après l'été. Hein.
Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un épisode qu'on tourne aujourd'hui pour la rentrée, parce qu'elle s'associe à la rentrée scolaire et pour beaucoup d'athlètes qui sont dans des clubs et qui ont coupé, qui n'avaient pas d'objectif effectivement à court terme. Dans les clubs, moi je le vois, le stade il a été fermé avec le repas du club de fin d'année le 25 juin et il rouvre aujourd'hui ou demain. Donc voilà. C'est le cas pour beaucoup d'athlètes, sauf ceux qui sont en prépa, effectivement. Et du coup, pour tous ceux qui sont en prépa, voilà, cet épisode peut se consommer plus tard. C'est vraiment les erreurs à ne pas faire quand on sort d'une grosse coupure et une baisse d'activité physique. Voilà, le premier conseil, comme tu l'as dit, effectivement, c'est de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas vouloir rattraper les vacances et de se dire, ça c'est l'erreur la plus fréquente à mon avis, c'est reprendre par trop de kilomètres, trop vite, parce qu'on a l'impression que pendant un mois ou un mois et demi, la coupure va nous avoir fait perdre totalement notre niveau. Et l'erreur, c'est de vouloir reprendre trop vite. Ouais.
Alors justement, l'important peut-être pour redémarrer, c'est déjà de faire un point sur le point de départ, d'où on est, voilà, d'où on part pour construire des prépas. Et toujours ces conseils qu'on peut donner aussi, c'est de pourquoi pas s'organiser des tests très simples, hein, sur piste à réaliser. Tu vas nous donner des exemples, mais pour faire un point d'étape, on sait où on en est, on sait quel est le niveau physique et qu'est-ce qu'on peut viser dans les prochaines semaines, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est faire un point de où est-ce que je suis aujourd'hui et où est-ce que je veux aller. Est-ce que mon objectif, c'est une course dans 3 mois? Est-ce que c'est juste retrouver un niveau physique et une routine et tout ça pendant... Voilà, il faut se fixer des objectifs, savoir vers quoi on va et effectivement faire des tests physiques à travers un Cooper ou un demi-Cooper ou un test VMA. Ça, c'est des choses qui se font beaucoup, qui se font dans les clubs, qui se font auprès d'athlètes. Nous, je sais que chez My Running Club, quand on a un athlète qui ne connaît pas trop ses allures, qui démarre et qui souscrit un abonnement chez nous après plusieurs mois de reprise pour connaître un peu sa carte d'identité et sa photographie du moment. On lui fait faire un test physique. Ouais. C'est un peu comme nous, ce qu'on fait sur le projet La Dernière Danse, ouais, où on a fait un test en laboratoire, un test VO2 sur tapis en début de prépa.
Là, et c'est vraiment la solution poussée.
La nôtre, c'est la solution ultime. Ça peut être effectivement, ça peut être beaucoup plus simple avec un Cooper ou un demi-Cooper, 6 minutes ou 12 minutes. C'est pour déterminer votre VMA, ça peut le faire aussi. Nous, on le fait en tapis et en labo pour avoir les seuils associés à la fréquence cardiaque et tout ça, mais c'est pas obligé d'aller jusque là. Mais par contre, connaître ces zones du moment pour pouvoir travailler sur les zones du moment correctement, je pense que c'est une bonne base. Et après, t'en refais un plus tard dans la saison, dans 2-3 mois, ou alors tes compétitions te serviront de test. Mais voilà, je pense que pour vraiment avoir conscience de où est-ce qu'on part, de où on part, ça peut être intéressant effectivement de faire ces tests de Cooper ou de demi-Cooper. Il suffit de 6 minutes.
Alors voilà, comment on les fait concrètement, comment on les court et qu'est-ce que ça nous donne comme indication alors ?
Le test Cooper, c'est 12 minutes sur une piste et c'est pour estimer ta VMA et ta VO2 max. Donc le but, c'est de courir le plus rapidement possible pendant 12 minutes. Donc le protocole, il est simple, c'est tu t'échauffes de façon classique, tu fais un échauffement de 15 à 20 minutes, tu fais quelques gammes, quelques accélérations et après c'est une séance d'intensité maximale pendant 12 minutes. Alors l'idée, c'est d'être quand même le plus régulier possible.
Ça fait peur.
Ça fait peur.
Et long, 12 minutes.
Ça peut être très long. C'est pour ça qu'après, il y a le demi-Cooper 6 minutes, mais c'est encore plus intense.
C'est vrai.
Donc,
deux fois moins long.
C'est deux fois moins long, mais deux fois plus intense.
Ouais,
mais, ça dépend de chacun. Mais l'idée, c'est quand même donc, de réaliser ce test sur une piste de 400 mètres. Vous regardez le nombre de tours que vous faites. Admettons, vous faites 5 tours en 12 minutes, ça vous fait 2000 mètres. Et après, en fonction de ça, vous le rentrez dans un. Vous allez sur Google, il y a un petit algorithme, il y a des tableaux qui existent, et vous avez votre estimation de VMA. Et en fonction de ça, après, vous pouvez calibrer votre saison et vos efforts de fractionner en fonction de votre VMA. C'est un peu du coup votre photo de départ. Et ça, le test, il faut quand même le refaire toutes les 6 à 8 semaines. Vous allez voir, très vite, on va progresser normalement. L'idée, c'est d'en programmer un autre plus tard. Mais voilà, ce premier test de 12 minutes autour d'une piste couru à 100% de vos capacités, ça peut être intéressant pour déterminer comme ça sa VMA.
Est-ce que ce test a un intérêt pour ceux qui ont totalement coupé, qui ont profité de l'été et du mois d'août, parce qu'il y a plein de personnes qui prennent leurs vacances au mois d'août, pour faire leur coupure annuelle? Est-ce que ça a vraiment du sens de faire ça, de démarrer comme ça?
Oui et non, ça dépend si tu te connais. Si tu te connais parfaitement, que tu as plusieurs années de course à pied et que tu sais ton point de départ et que tu connais un peu tes allures, pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, pour un coureur débutant qui a fait une grosse coupure, une vraie grosse coupure, qui ne sait pas trop où est-ce qu'il en est, l'avantage, c'est que au moins tu as une cartographie de ton niveau et de ta capacité d'aujourd'hui à l'instant T, ta photo de ton point de départ, d'où tu pars. Et je trouve que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui ne se connaît pas trop et qui voudrait savoir, pour travailler vraiment sur les bonnes allures et se rendre compte de mon endurance fondamentale, elle doit être à temps, mon travail au seuil à 80% de ma VMA, il doit être à temps, mes séances de fractionner à 100% de VMA, c'est telle allure, etc. etc. Donc quelqu'un d'expérimenté, il se connaît, il n'a pas besoin forcément de le faire. Un débutant, je trouve que ça peut être intéressant. Ouais.
Il y a d'autres changements sur cette rentrée scolaire. Moi, je pense aux pères et mères de famille. C'est qu'effectivement, le rythme normal de la vie reprend. C'est-à-dire que les enfants vont à l'école. On a peut-être parfois plus de temps aussi pour s'entraîner. Mais on a aussi un rythme régulier qui va revenir. Le soir, le matin, voilà, il faut s'occuper des enfants, les horaires de bureau, parce que leur prise du travail, c'est aussi important. Est-ce que là aussi, il y a de la vigilance à apporter du point de vue du sommeil, de la récupération, de l'alimentation aussi, parce que parfois, on fait quelques excès l'été. Est-ce que toute cette routine, il faut la remettre en place assez vite? Et est-ce que voilà, le fait d'avoir un peu réalisé des excès pendant l'été, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine indulgence sur ses propres performances sur les premiers jours et les premières semaines d'entraînement?
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est presque tout aussi important que la reprise de l'entraînement en tant que tel. C'est tout l'environnement qui va reprendre une routine habituelle. Là, c'est plus l'entraînement pendant les vacances entre deux apéros. C'est plus l'entraînement, voilà, avec les enfants qui sont pas là parce qu'ils sont au centre ou ailleurs. Là, c'est vrai que on va retrouver des levers et des couchers à horaires réguliers. Donc, retrouver normalement un rythme de sommeil et un rythme de vie avec une structuration de la semaine avec des vraies habitudes. Des repas aussi réguliers. Ça, c'est vrai que, honnêtement, c'est vrai que quand on est en vacances, que ce soit dans les repas ou dans son rythme quotidien ou même dans son alimentation, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui changent par rapport à notre quotidien.
Ouais.
Donc, c'est bien de réinstaller cette activité physique et cette course à pied au milieu de tout ça et que tout retrouve un peu son rythme de façon progressive. Et du coup, la vraie routine de récupération que sont le sommeil, l'hydratation, le repos et à côté de ça, l'entraînement, vont retrouver progressivement leur place. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je trouve que c'est là-dessus presque que... moi, honnêtement, je préfère entraîner des athlètes qui sont dans un rythme quotidien que des athlètes en vacances.
Bah, bien
sûr.
Parce
que des athlètes en vacances, même s'ils te disent « Ouais, j'ai plus le temps de m'entraîner », c'est tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'il y a autour, toute ta journée type qui est vraiment moins bien structurée,
ouais,
et qui sont beaucoup plus compliquées à mettre
les
en place.
Les barbecues, un peu d'alcool, bah ouais, un peu de fête, un peu de... Voilà, beaucoup
aller
de piscine.
Se balader, marcher beaucoup. Ouais, non, tout ça, c'est vrai que ça compte. Alors que quand c'est ton rythme quotidien, tu retrouves tes habitudes et là, c'est bien et tu retrouves ta routine d'entraînement et ta routine du quotidien. En plus, là, on est sur des jours qui sont quand même mieux pour s'entraîner.
Ouais.
On n'est plus dans juillet-août où il faisait 40 degrés.
Ah, là, la période est idéale, tout à fait.
La période, exactement. La période septembre-octobre, tant qu'il fait encore jour, il fait encore bon. Pour moi, c'est la meilleure période pour s'entraîner avec avril, mais ouais.
On l'a fait ensemble, on en a parlé d'ailleurs dans la dernière danse. On a eu des étés différents, toi et moi, mais je prends mon exemple. Moi, j'ai coupé 2 semaines totalement, mi-juillet, et ensuite j'ai repris progressivement avec pas mal de volume, mais avec beaucoup, beaucoup de faible intensité. C'était ça l'idée, Johan, c'est déjà reprendre plaisir à mettre les baskets et repartir courir, mais aussi... ne pas du tout regarder la montre, par exemple. Et ceux qui utilisent les chaussures à plaques de carbone, sur les 2 ou 3 premières semaines, vous n'êtes pas obligé de les sortir du placard, quoi. C'est-à-dire que là, il faut réécouter ses sensations, réentraîner un peu le pied, ce que toi, tu appelles souvent comme ça, retrouver un pied intelligent et réactif. Et surtout, ne pas regarder les allures, ne pas juger ses allures par rapport à ce qu'on était capable de faire en pleine saison il y a quelques mois, quoi.
Ouais, c'est ça, le maître mot de la reprise, ça va être retravailler un peu son socle d'endurance et reprendre par des footings très faciles avec des durées qui vont être très progressives et qui vont augmenter. Sur des terrains, moi, je privilégierais même les terrains plutôt souples plutôt que la route pour un peu ménager tout ce qui est tendons, articulations et qui, eux, vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour retrouver leur capacité à encaisser les contraintes mécaniques que le cardio. Franchement, je trouve que le système cardiovasculaire, il revient. Moi, je trouve que ça, enfin, de mon côté, de mon expérience et même quand je te vois toi, ça revient vite. Le cardio, j'ai l'impression qu'il revient. C'est la chose qu'on perd très vite. Mais par contre, au bout de quelques semaines, ça revient. Et à l'inverse, on se rend compte que les muscles, les tendons, les articulations, ça met beaucoup plus de temps. On a des courbatures, on a mal aux mollets, on a mal aux jambes. Et parce que tout ça, ça met un peu plus de temps à encaisser les contraintes. Donc, c'est pour ça qu'il faut être hyper progressif et le faire plutôt sur terrain souple et éviter les grosses séances de fractionnés ou de VMA ou de seuil. assez rapide, assez intense sur une période de reprise. La reprise, c'est fait pour faire de l'endurance, du footing facile, progressif,
un peu
le travail
fartlek,
de renforcement.
Ça peut être du 30-30, ça peut être des jeux d'allure sur des séances mixtes comme tu les adores avec du mélange de seuil et de VMA avec par exemple des blocs de 7-8 minutes enchaînés à des 4 ou 5 fois 30-30 et encore un bloc de 7-8 minutes. Ça peut être... Là, on peut vraiment se faire plaisir au niveau des séances, Yohan, en fait.
Ah, il faut oublier le chrono, il faut essayer de faire des choses qui sont un petit peu ludiques et pas essayer de regarder et tenir ses allures habituelles et se dire « Ah là là, je suis vraiment moins bien, moins performant, c'est inquiétant, ça va pas ». C'est vraiment le début, c'est fait pour retrouver des sensations, retrouver du rythme plutôt que de l'allure. Et effectivement, c'est le moment de mettre des trucs ludiques dans l'entraînement. Et comme tu dis, le fartlek est un bon moyen de jouer avec ses sensations, à comme faire ses footings en endurance fondamentale pour construire sa base, travailler un peu la technique de course aussi. C'est le moment de faire des gammes pour travailler sa qualité de pied, retrouver de la tonicité pour sa foulée en faisant tout ce travail technique. C'est la bonne période pour moi pour travailler tout ça, sa mobilité articulaire. Voilà, l'idée c'est de pas trop réintroduire du travail à haute intensité. Il faut pas créer de fatigue importante sur un corps qui est pas apte à encaisser justement tout ce travail-là. Donc non, c'est un excellent moyen de prendre le temps de reconstruire les bases. C'est pour ça que même si on a un dossard, si on se dit « Allez, bah, je prépare, admettons, les 20 km de Paris ou un 10K en octobre », bah, prenez quand même le temps de construire ça sur 3-4 semaines et ce n'est pas grave si votre compétition, vous la prenez avec ce que vous aurez à mettre à ce moment-là. Mais prenez le temps de construire ce socle-là pour ne pas se blesser et pour pouvoir durer dans la saison. Ouais.
On parlait de point d'étape tout à l'heure. On va recevoir d'ailleurs l'organisateur d'une toute nouvelle course parisienne dans quelques minutes. Est-ce que tu conseilles aussi, pourquoi pas, à ceux qui en ont la possibilité de mettre un dossard de rentrée, c'est-à-dire un dossard de reprise où on ne va pas viser le chrono, mais on va se remettre dans un mode course à pied, un peu compète, accrocher le dossard, l'épingler sur le maillot et partir comme ça. Pas forcément tenir compte du chrono ou des sensations, mais au moins pour, entre guillemets, remettre le pied à l'étrier, quoi. C'est-à-dire se relancer un peu. Et là, ça peut aussi servir à ceux qui ne sont pas hyper fans des tests Cooper, demi-Cooper ou tout ce genre de choses, de faire un vrai point d'étape aussi sur une distance comme le 10 km par exemple, où tu te dis, bah voilà, allez, je me fais plaisir, je ne suis pas dans une forme optimale, mais en tout cas, je vais voir un peu ce que je vaux en cette reprise, quoi.
Ouais, ça peut être intéressant. Alors voilà, il y a effectivement, tu as deux écoles. Soit tu fais ton 10K plutôt en mode chill parce que tu as envie de mettre un dossard, d'accompagner un copain. Tu t'en sers de travail au seuil ou d'une séance de fractionner pendant ta course. Ou soit tu t'en sers de point de passage et pour remplacer effectivement ton test Cooper ou t'en servir comme un test de rentrée pour voir où est-ce que tu en es après une reprise. Aller à 2, 3, 4, 5 semaines après ta reprise, ça dépend vraiment de ton profil de où est-ce que tu en es et où est-ce que tu vas. De ton profil de coureur, tu as des coureurs qui ne peuvent pas mettre un dossard sans le courir à fond. Tu as des mecs qui sont uniquement compétiteurs. Ça arrive et du coup, bah, eux, il faut leur dire, bah, vous courez à fond et c'est votre test. Tu as ceux qui préfèrent le faire, aller à 90% parce qu'ils ne veulent pas non plus se blesser et trop taper dedans. Ça c'est propre à chacun, mais ouais, par contre je trouve que remettre la carotte du dossard comme tu dis pour se remettre le pied à l'étrier et puis surtout pour se faire plaisir, parce que la course à pied c'est très bien, l'entraînement c'est très bien, mais je trouve que le dossard, le côté convivialité populaire de la course, c'est aussi le partage et faire une compète avec cette adrénaline que tu as sur la ligne de départ, que tu le retrouves que en compète, quoi. C'est ce petit moment même de stress, même si tu vas un peu en te disant c'est pas grave, je vais pas courir à fond. Quand tu es dans le sas de départ et que tu as la musique,
ouais,
t'as quand même un peu le stress quand tu pars de la maison, tu vois. Donc, non, je trouve que mettre des dossards, même si c'est sur des petites courses, c'est très bien. Et puis, même ce que j'encouragerais, c'est pourquoi pas mettre des dossards sur des courses nature en début de saison, tu vois, sur des petits, pas des trails qui, avec du dénivelé, mais sur des courses mi-route, mi-chemin, comme on en a beaucoup en campagne. sur le mois d'octobre. Il y en a énormément par chez nous. Bah, je trouve que si tu mets un dossard, ça te fait ton footing un peu long en actif. Et puis en plus, tu as travaillé du dénivelé, tu as travaillé des appuis différents. Ça peut être très sympa, ouais.
Autre question, autre aspect important, parce qu'on en parle souvent, notamment avec Seb Cornette, notre ami fondateur d'École de Trail et qui gère les cabinets pour les trailers. Comment on réintègre le renfort aussi, Yodu? Parce que ça, c'est une partie qu'on aime beaucoup abandonner pour les vacances aussi, hein. On a fait des efforts, là, on le laisse de côté, il faut s'y remettre, malheureusement, entre guillemets.
Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est la base de la reprise, c'est la réintroduction du renforcement musculaire parce que c'est le meilleur moyen de réussir sa reprise. Et puis, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une période où tu ne fais pas de travail spécifique, tu vas pas chercher à développer telle ou telle allure. On n'est pas dans du spécifique marathon, spé semi ou spé 10. On est quand même généralement assez loin de l'objectif. Donc, c'est là où tout le renforcement a toute sa place pour réhabituer ton corps aux contraintes de la course et justement après construire ta base suffisamment solide pour toute la suite de ta saison. Donc, ouais, pour moi, les semaines de renfo pour quelqu'un qui s'entraîne 4 à 5 fois, ça serait deux séances par semaine. Pour quelqu'un qui s'entraîne 3 fois, ça serait une séance de renfo par semaine. Et après, t'es pas obligé d'aller sur des séances de renfo qui durent 1 heure, mais 20 à 30 minutes suffisent. Surtout, comme je disais tout à l'heure, tes endurances, tes footings, tu démarres par 20-30 minutes de footing. Et c'est là où, justement, après, tu rajoutes tes 20 à 30 minutes de renfo et tu arrives à ton heure
Ouais, habituel,
d'entraînement
voilà.
habituel de ce que tu as l'habitude, sauf que tu as découpé, tu as fait 20 minutes d'échauffement et 30 minutes de renfo. Et effectivement, le renforcement, comme on le connaît, tu peux faire des trucs à poids du corps sans forcément
T'as
de
raison.
charge lourde, sans forcément aller en salle, où tu vas travailler justement tes membres inférieurs, à savoir faire des squats, faire des fentes, des soulevés de terre, des ponts fessiers, du gainage, du travail d'ischio. Même du travail sur une jambe, la proprioception, les exercices de stabilité de cheville, les abdos, abdos gainage, tout ça, tout ce qui va être important. Et ça, vous faites 20 à 30 minutes 2 fois par semaine. Une fois dans la semaine, vous faites plutôt membres inférieurs et musculaires avec tout ce qui va être chaîne postérieure, les fessiers, les mollets, les ischios et les quadriceps. Et une autre séance, pardon, où là vous faites plutôt le tronc, hein, l'importance du gainage, des abdos, des choses comme ça. Et vous allez améliorer comme ça tout ce que vous avez un peu négligé l'été pour être suffisamment solide et encaisser la charge quand celle-ci va augmenter de façon progressive. Mais il n'y a pas forcément besoin d'aller en salle ou de se faire une séance de 1 heure. Si vous faites 2 fois 20 à 30 minutes dans la semaine, c'est parfait, ouais.
Il y a des pièges à éviter aussi, hein. C'est toujours la même histoire, mais c'est le trop vite, trop fort et trop long,
Ah oui.
malheureusement. Ça, à chaque fois, on est un peu répétitif et rébarbatif avec ces conseils, mais c'est essentiel, Johan. Parce que là, c'est vraiment une période où il faut rester vigilant et c'est le maître mot de ce début de saison, entre guillemets.
Ouais, c'est ça, ouais. Ça revient à tout ce que je disais tout à l'heure d'une reprise qui doit être progressive et qui ne doit pas mettre l'intensité avant d'avoir un corps suffisamment solide et un système cardiovasculaire prêt à encaisser toutes les charges qu'on va lui mettre. Si au bout de 10 jours de reprise après 2 mois de coupure, vous faites 12 fois 400 à 100% de VMA, franchement, vous allez droit dans le mur. Vous allez vous blesser. Vous allez surtout faire monter un pic de forme que vous tiendrez, mais absolument pas longtemps. L'idée de construire ce socle suffisamment solide, c'est pour faire des cycles d'entraînement avec des phases où vous travaillez. Ça revient à la construction d'une maison, grosso modo. Et on le dit souvent, c'est un exemple assez simple. Mais si vous ne faites pas les fondations de votre maison, si elles ne sont pas bien ancrées au sol, vous avez beau monter le mur et puis affûter quand vous faites la toiture. Si les fondations ne sont pas solides, au premier coup de vent, tout s'envole. Et là, c'est pareil, cette phase de reprise, c'est les fondations de la maison. Et donc, plus elles vont être longues et bien faites, avec justement ce travail d'endurance fondamentale, ce travail de foncier, ce travail de renforcement, tout ça fait de façon progressive, avant de mettre du travail et du spé et du travail de VMA et du spé à Allure. Et après une phase d'affûtage pour aller jusqu'à votre objectif dans, je sais pas, dans 3 mois, bah voilà, vous allez pas durer et en plus vous allez pas durer dans la saison et le risque de blessure il est important. Donc vraiment prendre le temps de courir lentement, mais c'est dingue parce que c'est pourtant un travail facile.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire que je trouve que dans c'est plus facile de courir en endurance fondamentale, c'est plus facile de faire du renforcement, de faire des choses ludiques, de c'est courir vrai. Aux sensations, de faire du fartlek, que de se taper 8 fois 1000 récup une 30 sur la piste. Et ben pourtant,
c'est l'impatience du coureur, Yodu.
Mais c'est ça. Qu'on a l'impression de ne pas progresser, en fait. Alors que c'est un travail sous-marin qui est super important.
Mais tout ce qu'on dit là, c'est pour ceux qui se seraient vraiment arrêtés. Mais après, on connaît beaucoup de nos auditeurs qui souvent ne s'arrêtent pas ou s'arrêtent peu. On ne peut pas considérer qu'une pause, par exemple, d'une semaine, elle est forcément régénératrice. Mais en tout cas, vous n'allez pas perdre énormément de sensations si vous coupez 7 jours la course à pied. Et pour ceux-là, en particulier, Johan, est-ce que tu peux aussi les rassurer et leur dire en combien de temps tu peux retrouver une bonne forme, un bon état physique pour aller relever les défis que tu t'es fixés? Moi, je pense, comme tu l'as dit, parce qu'on est radio partenaire au 20 km de Paris le 11 octobre, si vous êtes déjà dans un bon état de forme, en 3-4 semaines, vous pouvez vous présenter sur la ligne avec un objectif qui peut être ambitieux, quoi.
Ouais, bah exactement. Ouais, ça dépend vraiment de la durée de ta coupure, de tout ce que t'as dans emmagasiné pendant des années d'entraînement. Plus tu vas être un coureur avec de l'expérience, avec de l'acquis, avec un gros volume et un gros passif de coureur derrière toi, plus ça va très vite revenir. Si t'es un nouveau coureur qui a que un an de pratique, effectivement, une coupure de 15 jours, 3 semaines, bah, ça va mettre tout autant de temps, surtout si tu, en plus, respectes les conditions que j'ai parlé tout à l'heure. Mais par contre, ça peut revenir très vite. Il faut savoir où est-ce que tu... Est-ce que c'est une coupure, ta coupure annuelle, et derrière, tu as des objectifs à 6 mois? Normalement, c'est ça. Hein, quand tu coupes comme ça de façon 3-4 mois, ça veut dire que soit tu es post-marathon, soit tu es post-gros objectifs, soit tu es coupure de vacances. Mais il ne faut pas se donner un objectif de performance très court si tu es en coupure. En revanche, si c'est une petite coupure de 15 jours et que tu as le 24 Paris, ouais, t'as pas à t'affoler, il y a 6 semaines, une coupure de 2 semaines, tu vas très vite revenir et tu vas même te surprendre parce que tu auras fait de la fraîcheur physique et de la fraîcheur mentale et que le corps a cette mémoire pour être capable de te transcender le jour J et de faire des chronos au-delà de tes espérances. Après, comme ça, une petite coupure de 15 jours, et si tu te laisses 4 à 6 semaines, c'est largement suffisant. Ouais.
Ben voilà, les bons conseils de Johan pour réussir sa rentrée running. Vous avez tout ce qu'il vous faut désormais. Il suffit d'acheter le nouveau cartable, le nouveau crayon et puis le nouveau cahier.
En vrai, c'est l'occasion de tout changer sur une rentrée, partir aussi avec des nouvelles chaussures.
T'as raison. C'est vrai que l'inventaire de fin d'été, en faisant le tri dans ce qui est encore utilisable ou ce qui est usé, c'est important aussi, t'as raison. Parce que,
Puis... Ce que vous aurez dû faire cet été, c'est aussi un bilan de votre saison d'avant. Voir à froid un petit peu après une coupure, quand vous avez coupé 10 jours, c'est est-ce que la course à pied me manque, qu'est-ce que j'ai bien fait l'année dernière, qu'est-ce que j'ai mal fait, vers quoi je veux aller, quels sont mes objectifs de saison et tout. C'est vraiment un moment un peu d'introspection et de se dire des choses à améliorer, vous personnellement, si vous avez un entraîneur personnel, d'en discuter avec lui. Franchement, c'est un peu comme à l'école, hein. C'est-à-dire que t'as terminé ton année, t'as une note presque. Mon coach faisait ça, il nous donnait une note et même nous, on se donnait une note sur la saison. On l'avait eu fait, je crois, dans des prépas aussi, tous les deux, où on notait nos prépas. Ouais. C'est comme si t'allais à l'école et effectivement, là, c'est la reprise.
C'est vrai.
Et on reprend de façon progressive vers quoi je veux aller. Et puis, pareil, comment vous voulez courir, avec quelles nouvelles chaussures, est-ce que je teste ça,
Et c'est un bon moment de planification, tu as bien raison, Johan, à moyen terme,
exact.
quelles sont les courses dont je rêve, les objectifs que je me suis fixés. Et parce qu'en plus, avec la vitesse à laquelle partent les dossards désormais, il faut s'organiser. Donc, c'est un bon temps de réflexion sur les mois qui vous attendent. Souvent, on fait ça en janvier, mais faire un deuxième point dans l'année dès le mois de septembre, ça peut être intéressant et s'adapter aussi à ce qui a été réalisé sur la première partie de saison. C'est-à-dire que si vous n'avez pas atteint les objectifs que vous vous étiez fixés, ou si au contraire tout s'est bien passé, bah, c'est le moment de réadapter et de refixer des échéances importantes. Johan, comme d'hab, tu as été excellent. Merci beaucoup. On passe tout de suite au bon plan Dossard.
RMC Running, le bon plan Dossard.
Et le bon plan Dossard nous amène au cœur du bois de Boulogne, sur mes terres, Johan. Eh oui, on en a parlé tout à l'heure. Parce que c'est une première édition qui va se dérouler le 20 septembre prochain. L'édition des 10 km du Lagardère Paris Racing 2026. C'est un club comme ça niché en plein cœur du bois de Boulogne, un club sportif historique à Paris. Et pour en parler avec nous, on accueille Benjamin Boulanger, le directeur général délégué du Lagardère Paris Racing. Bonjour Benjamin.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Soyez le bienvenu Benjamin pour déjà nous parler de ce spot incroyable, parce que le Lagardère Paris Racing, c'est peut-être le meilleur emplacement de Paris au cœur du bois de Boulogne, le long du grand lac du bois de Boulogne. On peut pas faire mieux a priori.
Écoutez, si vous le dites, on a la chance de gérer magnifiquement ce beau lieu. Un peu dans la même dynamique qu'on a lancé il y a un petit peu plus de 5 ans, le Trophée Clarins, qui est le tournoi international de tennis, on a souhaité lancer une nouvelle opportunité à travers cette course. On est un lieu, comme vous le savez, qui est privé et qui est naturellement fermé une grande partie de l'année, mais qui est quand même l'héritage un peu du sport français avec de nombreux grands sportifs qui ont marqué l'histoire de ce site. Je citerai peut-être en premier Yannick Noah, hein, qui a gagné Roland-Garros en 83 et qui déjeunait juste avant cette finale. Et donc, à travers cet événement, on a cherché à rassembler la communauté du monde du sport, nos membres, en défendant une cause, une nouvelle cause avec cette magnifique association qui est Premier de Cordée. Mmh. Et donc, on a créé ce parcours dans le bois de Boulogne, parce qu'on a évidemment cette sensibilité à ce magnifique bois qui est au cœur de Paris, hein, parce que c'est dans le 16e arrondissement, et en permettant à l'ensemble des participants d'aller fouler cette piste olympique des Jeux de 1900 autour du 7e kilomètre de ce parcours et à l'occasion de fouler cette piste olympique, on rend hommage aux sportifs qui ont marqué l'histoire de ce lieu. Donc,
ça, c'est exceptionnel. Hein. En plus, on est en plein cœur des journées du patrimoine, donc tout coïncide parfaitement. Quoi. Ça permettra aux coureurs sur cette course de passer sur un morceau d'histoire des Jeux Olympiques en France. Quoi. C'est magnifique.
Ça permettra de se projeter ou de revenir un petit peu en arrière entre ces époques des Jeux Olympiques des années 1900 et ce qu'on a pu vivre en 2024 où on voit que le sport a vraiment évolué. Mais c'est sûr que c'est important quand on est un amoureux du sport de pouvoir découvrir ces lieux qui ont été et qui le sont encore des lieux emblématiques du monde du sport.
Ouais. Vous attendez combien de participants sur cette première édition ?
On espère avoir au moins 2000 participants. Mmh. C'est vrai que c'est le running, vous le savez très bien, est aujourd'hui extrêmement attractif sur Paris avec de nombreuses courses. Donc notre communication a eu lieu il y a quelques temps. On a évidemment engagé toutes nos forces pour essayer de faire savoir. C'est une première édition, c'est un premier lancement. Donc plus on en aura, mieux c'est. Mais on est autour de 2000 pour le moment et j'espère qu'à travers ce passage et les autres passages qu'on a, on va réussir à avoir encore plus de participants.
C'est l'intérêt, Johan, on en parlait tout à l'heure, mais ça peut être l'opportunité pour les coureurs parisiens, franciliens, de mettre un dossard de rentrée, c'est-à-dire se tester, voir ses sensations. Les journées sont belles encore pour l'instant, la météo est top. C'est le moment aussi de se faire plaisir dans le bois de Boulogne à Paris, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est de se faire plaisir. Je pense pas que ça soit un parcours où les gens vont venir chercher un chrono ou autre. C'est plus le côté festif et même caritatif de la course qui doit inciter les gens à venir passer un bon moment et découvrir justement des endroits qu'on ne connaît pas. Tu vois, moi personnellement, pour courir de temps en temps au Bois de Boulogne. Je ne savais pas toute cette histoire sur le Lagardère Paris Racing. Je le voyais plutôt au stade de Colombes et tout dans mon, dans mon esprit de, ouais. de provincial, de rugby, tu vois. Et donc, je découvre ça, tu vois.
Oui, pour ceux qui connaissent vraiment le Bois de Boulogne, je fais la précision, Benjamin d'ailleurs, ouais. c'est qu'en fait, le grand changement de cette course, ce sont des rues habituellement fréquentées par les coureurs du bois. En plus, ce sont les routes fermées à la circulation, donc c'est vraiment un beau parcours qui peut vous faire plaisir. Mais c'est après le 9e kilomètre, vous longez le grand lac du Bois de Boulogne et au lieu de faire toute la grande ligne droite, bah, vous passez par le Lagardère Paris Racing et c'est là que vous rentrez dans ce lieu mythique.
À l'intérieur, en fait. Oui.
C'est ça. Alors, il y a plusieurs arguments hein, pour venir y participer. Le premier, je dirais qu'on court pour une cause. Moi, j'ai beaucoup d'affection sur cette association parce que nous sommes un club sportif, familial, et la plupart des adultes ont la chance d'avoir des enfants. Premier de Cordée vient porter le sport à l'hôpital pour des enfants qui sont touchés par des maladies graves. Donc ça, c'est pour moi le premier argument pour lequel il faut venir. Le deuxième, c'est que vous avez parlé de notre établissement, mais on a cherché aussi à associer d'autres amis à travers cette course. On passe par le Précatelan, cette magnifique concession où vous avez le chef étoilé qui est présent. Vous allez aussi découvrir un parcours un petit peu atypique dans le Bois de Boulogne, même si quelques habitués connaissent très bien les différents recoins, mais c'est vrai que c'est son ligne droite qui longe le lac. On a beaucoup de sportifs qui sont parrains de cette association et qui sont membres du club sportif de haut niveau qui y participent et ça c'est quand même sympa de pouvoir se retrouver dans cet esprit du monde du sport hein. Johan Huget sera présent, Thierry Omeyer, on a Christian Jean-Pierre que vous connaissez certainement très bien qui sera là, voilà, toutes ces personnalités aussi qui vont rassembler et fédérer et quand on est amoureux du sport on aime bien être tous ensemble.
Magnifique. Eh ben, écoutez, très belle course organisée. Donc, c'est le 20 septembre prochain, dans plein cœur du Bois de Boulogne. Je vous remercie d'ailleurs, Benjamin, parce que grâce à vous, on fait bénéficier à la communauté RMC Running de 4 dossards. Donc, 4 dossards à gagner pour ce bel événement sur Strava. Voilà, le club RMC Running sur Strava. C'est là où vous allez pouvoir postuler pour remporter ces précieux dossards. Ceux que ça intéresse, au-delà du tirage au sort, peuvent aller sur le site et encore s'inscrire, hein, Benjamin, je le précise.
Bien sûr, tout à fait. Et surtout, merci de votre soutien. On est vraiment très, très heureux de cette première édition. Et grâce à toute cette communauté de sportives, on arrive à faire savoir cette course et évidemment relayer cette association qui nous tient à cœur.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Bon courage pour l'organisation. Et on pense à tous les coureurs qui s'élanceront le 20 septembre et qui vont se régaler. Merci, à bientôt.
Merci, bonne journée. Merci à vous.
Et un grand merci à Yoann Durand, on s'est régalé sur cet épisode de rentrée. Ça y est, c'est le moment de s'y remettre, Yodu, voilà.
Est-ce que t'as pleuré quand t'as fait ta rentrée running? Tu voulais y aller ou tu voulais pas y aller, toi?
Ah, c'est compliqué, parce que moi, la rentrée running, c'était le 20 juillet, donc j'ai eu le temps tu vois...
T'as eu le temps d'assumer.
C'est l'avantage de faire une rentrée pendant les vacances, c'est qu'au moins t'es cool. Oui. Et tu te dis,
voilà,
bon...
T'es moins stressé.
Après, tu te dis quand même, oulala, je sais ce qui m'attend, et il y a du boulot, parce qu'avec tes bêtises de la dernière danse, ça commence à me faire peur. Mais bon, ça, on aura le temps d'en reparler.
Ah oui, là, on y est en plein dedans.
Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne RMC Running, et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.